France Culture. Quentin l'a fait.
Une vingtaine de frappes américaines et plus de 80 morts déjà sur la mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique contre des navires soupçonnés de convoyer de la drogue. Pour lutter contre la drogue, officiellement, l'administration de Donald Trump avance sous diverses formes la menace d'une guerre contre le Venezuela et réclame la chute du gouvernement Maduro. Alors une guerre est-elle possible? Pour quelles raisons? Quels sont les motifs réels de l'administration Trump? Pour nous éclairer ce soir, un invité, Thomas Posado. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen et l'auteur de cet ouvrage intitulé « Venezuela, de la révolution à l'effondrement », un livre qui est apparu aux presses universitaires du Midi. À mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Plaisir de vous retrouver. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans « Questions du soir ».
Nous combattons le narcoterrorisme et les organisations terroristes reconnues dans notre propre hémisphère. Je l'ai dit et je le répète, nous ne faisons que commencer nos frappes contre des narconavires et à envoyer les narcoterroristes au fond de la mer car ils ont empoisonné le peuple américain. Et Biden a pris des gants de soie alors que les cartels prennent le pouvoir dans nos communautés. Autour de 20 millions, des centaines de milliers d'Américains empoisonnés. Et Trump a dit qu'on allait retirer ses gants et qu'on allait combattre ces organisations. Et c'est exactement ce que nous faisons.
La voix du secrétaire américain à la guerre. Et pour commencer, Thomas Posado, est-ce que l'imminence d'une guerre entre les États-Unis et le Venezuela vous paraît aujourd'hui crédible? Si oui, sous quelle forme?
Une intervention terrestre avec des troupes au sol, cela me semble pas crédible. Le Venezuela, c'est un pays qui représente à peu près deux fois la superficie de la France, avec un budget militaire qui est évalué entre la 50e et la 60e place au monde. Les troupes déployées par les États-Unis, même si c'est un déploiement massif, c'est 15 navires de guerre, c'est 15 000 hommes, on estime qu'il en faudrait au moins 100 000 pour faire une intervention de ce type.
Ça, c'est la situation aujourd'hui. Hein.
Oui. Par contre, une intervention aérienne, voire même une intervention terrestre localisée autour d'une raffinerie pétrolière, cela est tout à fait envisageable, vu les menaces récurrentes, vu les ultimatums que met en place Donald Trump depuis maintenant plusieurs semaines. C'est difficile à exclure. On a vu ce qu'ils ont pu faire en Iran en juin dernier. Ce scénario pourrait avoir lieu ces prochains jours, ces prochaines semaines. La date est à la décision de Donald Trump, mais ce scénario, oui, est envisageable à court terme.
Alors on va tenter de comprendre le pourquoi, les motifs de cette intervention avec vous, Julien Bisson.
Oui, on vient d'entendre le secrétaire d'État américain à la guerre qui parle d'éteindre le narcotrafic qui va vers les États-Unis. Est-ce que c'est véritablement la raison de ce déploiement militaire et de ces attaques, ou est-ce que c'est un prétexte pour autre chose?
Non, c'est pas la raison pour ces attaques. Le Venezuela n'est pas un pays producteur de drogue et la raison évoquée par l'administration états-unienne, à savoir sauver des vies des états-uniens qui meurent du trafic de drogue, elle est assez fallacieuse parce que la principale drogue dont meurent les Américains, c'est le fentanyl, et le fentanyl arrive de Chine au Mexique puis va vers les États-Unis.
Donc pas du tout. Aucun rapport avec le Venezuela.
Aucun. Là où le Venezuela a un rôle, c'est pour la cocaïne, mais un rôle mineur. Le Venezuela n'est pas un pays producteur, c'est un pays de transit et un pays de transit secondaire. Sur les informations spécialisées, on pense qu'il y a 8% de la cocaïne colombienne qui passe par le Venezuela. La route pacifique, la route terrestre concentre beaucoup plus de trafic de drogue. Et enfin, le trafic de drogue, tous les États luttent contre, mais par des collaborations interétatiques, en arraisonnant les navires, en arrêtant les narcotrafiquants, en détenant les marchandises, pas du tout avec des bombardements aveugles. Ajouter à cela l'amnistie de Juan Orlando Hernández, tant qu'ancien président du Honduras, qui a acheminé 400 tonnes de cocaïne et qui a été amnistié par Donald Trump il y a 10 jours, rend ce prétexte très 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 peu crédible et très peu légitime. On a du mal à lire l'argumentation de Donald Trump.
Bon, Julien Bisson. Bon, alors on a envie de vous poser la question, Thomas Posado. Alors pourquoi viser ces bateaux qui sont supposément censés faire du narcotrafic? Est-ce que c'est simplement un déploiement de force pour effrayer le régime de Caracas.
Et on le rappelle, 84 morts à l'heure actuelle.
Oui, la Maison Blanche a publié vendredi une doctrine de sécurité nationale où ils énoncent clairement ce qui me semble le vrai motif de ce déploiement militaire, c'est à savoir le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Ça rappelle le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe au début du XXe siècle, qui était ce moment où les États-Unis étaient une puissance ascendante, nouvellement première puissance industrielle du monde, et commençait à se déployer à Cuba, au Panama, de manière agressive, principalement dans la mer des Caraïbes. Et on sait que Donald Trump admire cette époque. On n'est pas dans le même contexte. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus une puissance ascendante, sont une puissance déclinante, doublée par la Chine dans la plupart des relations commerciales en Amérique du Sud en particulier. Mais sa volonté, son désir, c'est de restaurer la primauté des États-Unis dans ce cadre.
Je me permets justement de citer Donald Trump sur ce sujet de la doctrine Monroe. Il a dit « Aujourd'hui, mon administration réaffirme fièrement cette promesse dans le cadre d'un nouveau corollaire Trump, il parle de lui-même, à la doctrine Monroe, c'est le peuple américain et non les nations étrangères ou les institutions mondialistes qui contrôlera toujours son propre destin dans notre hémisphère. » Elle est assez troublante slash fascinante, cette notion d'hémisphère dans la bouche d'un président américain.
Alors, d'une manière générale, aux États-Unis, il y a une projection toute l'histoire de la doctrine Monroe, c'est celle-là, de considérer qu'un hémisphère occidental, le ministre lié à l'Amérique latine, c'est le secrétaire d'État à l'hémisphère occidental. Donc, dire notre hémisphère, évidemment, il y a cette dimension très nationaliste de Donald Trump, mais il y a une lecture qui est traditionnelle de la part des États-Unis de se projeter vers l'Amérique latine. Se projeter, ça peut être de différentes manières. Donald Trump a choisi la manière la plus agressive et la plus interventionniste.
Julien Bisson.
Alors pourquoi le Venezuela, de tous les pays d'Amérique latine, pourquoi le Venezuela est aujourd'hui la cible des attaques et des discours de Trump?
Il y a plusieurs raisons, évidemment. Déjà, c'est un ennemi idéologique. Enfin, le Venezuela a professé, surtout au temps de la présidence d'Hugo Chavez, un horizon socialiste. Aujourd'hui, il me semble qu'il s'en est largement éloigné. L'économie, en période de Nicolas Maduro, ça s'est largement dollarisé. Donc, on est assez loin des horizons socialistes de Chavez. Mais lié à cela, il y a des contradictions au sein de l'administration Trump, à savoir Marco Rubio, qui, lui, est le partisan d'une politique interventionniste, en particulier envers Cuba, le Venezuela. C'est le propre de sa carrière politique. C'est un émigré cubain, dont la base électorale est en Floride, avec des électeurs latinos antisocialistes qui sont assez peu clients de la politique xénophobe de déportation massive professée par l'administration états-unienne. Par contre, qui est pour
c'est
cette stratégie...
C'est lui, Marco Rubio, qui pousse aujourd'hui dans cette direction ?
Sur ce sujet, oui. Enfin, pendant la première partie du second mandat, de janvier à juillet, la personne qui avait la main sur le dossier vénézuélien, c'était Richard Grenell, donc, qui était envoyé par Donald Trump pour négocier avec Nicolas Maduro, et qui avait négocier le maintien de l'autorisation pour Chevron d'exporter du pétrole vénézuélien aux États-Unis contre l'acceptation des déportations de Vénézuéliens qui résidaient aux États-Unis au Venezuela. Cet accord, il tient toujours. On est au milieu de menaces militaires, mais il y a toujours ces échanges entre les États-Unis et le Venezuela. Par contre, cette stratégie de changement de régime, c'est clairement le bébé de Marco Rubio et ce qui pourrait devenir un moteur de sa carrière politique si cette stratégie est un succès.
Et le pétrole dans tout ça, vous en avez parlé, Thomas Posado. Quel rôle joue-t-il là aussi dans l'attrait, l'attention que Donald Trump porte au Venezuela?
Il joue évidemment un rôle majeur. Hein. L'essentiel des exportations du Venezuela, c'est le pétrole. Il ne faut pas exagérer cette ampleur. Les États-Unis n'ont pas besoin...
Ils n'ont pas de pétrole aujourd'hui,
non,
les États-Unis.
Non, pas du tout. Et ils ont du pétrole du Canada, du Mexique. Donc, ils n'ont pas besoin du pétrole vénézuélien. Par contre, le Venezuela représente les premières réserves mondiales de pétrole. Et en cela, c'est un atout majeur, notamment pour jouer sur le marché pétrolier, jouer sur le prix du baril. C'est un partenaire qui est géographiquement très proche. Hein. Importer du pétrole d'Arabie Saoudite, c'est loin. Importer du pétrole du Venezuela, c'est extrêmement près. C'est un pétrole qui est lourd, qui a besoin d'être raffiné. C'est une des difficultés qu'a le gouvernement vénézuélien actuellement. C'est-à-dire que beaucoup de ces raffineries étaient traditionnellement aux États-Unis. Donc ça crée des fois des pénuries d'essence dans le pays qui a les premières réserves de pétrole au monde. Mais évidemment, le contrôle du pétrole vénézuélien est extrêmement important. Et la principale dirigeante de l'opposition parlait de transformer le Venezuela en hub énergétique pour les Amériques. Donc clairement, un changement de régime à Caracas serait une bonne nouvelle pour Washington.
Julien Bisson.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro, vous l'avez, on en a parlé, a dénoncé lundi 1er décembre 22 semaines de terrorisme psychologique. Est-ce qu'il peut résister à cette campagne menée par l'administration Trump ?
Pour l'instant, il résiste, du moins. Pour étudier le Venezuela depuis plusieurs années, j'ai entendu parler du départ de Nicolas Maduro à de nombreuses reprises. Je l'ai jamais vu pour l'heure. Je prenais l'exemple de l'Iran au mois de juin. Il y a eu une campagne militaire assez redoutable de la part des États-Unis, des bombardements, des morts, des centaines de morts. Mais le régime iranien a tenu. En 2019, il y a déjà eu ces pressions militaires. Il y avait eu l'autoproclamation de Juan Guaido comme président alternatif. Il y avait eu des dissidences dans l'armée, quelques centaines. C'est pas de nature à renverser le régime de Nicolas Maduro. Aujourd'hui, on ne voit pas, on n'entend pas parler de dissidences militaires. Donc, pour l'instant, visiblement, le régime serre les rangs et semble se maintenir malgré une pression psychologique qui est tout à fait redoutable. On en convient bien par le rapport asymétrique qu'il y a entre l'armée américaine et le Venezuela.
Nicolas Maduro, justement, en extrait de son discours donné à Caracas le 1er décembre dernier.
Nous voulons la paix, mais la paix avec souveraineté, la paix avec l'égalité. La paix avec la liberté. Nous ne voulons pas la paix des esclaves, ni nous ne voulons la paix des colonies. Colonies. Jamais. Esclaves. Jamais. Liberté. République. Paix avec dignité.
Vous nous dites, Thomas Posado, pour le moment, pour l'instant, Maduro résiste. Et dans le même temps, des rumeurs ont circulé dans la presse, rumeurs selon lesquelles il aurait demandé au président américain sa protection contre l'amnistie de ses péchés, de ses forfaits. Que sait-on justement de cet échange qui aurait eu lieu entre Donald Trump et Maduro ?
Toutes les informations sont évidemment à mettre au conditionnel, puisqu'on sait que période de tension militaire, la vérité est sans doute la première victime. On sait que oui, Nicolas Maduro aurait proposé cela en maintenant la continuité de son régime, c'est-à-dire que dans cette hypothèse, ce serait Delcy Rodríguez, donc sa vice-présidente, qui serait la nouvelle chef de l'État. Une hypothèse qui serait un changement dans la continuité, une hypothèse qui a été rejetée par Donald Trump. On sait aussi que, selon le New York Times, il aurait proposé aussi des conditions préférentielles aux entreprises états-uniennes, quitte à desserrer les liens avec la Russie et la Chine dans ces conditions. Pour l'instant, ces négociations n'ont pas eu lieu et se déroule essentiellement via la presse.
À prendre avec des pincettes, donc Julien Bisson.
Autre information peut-être à prendre avec des pincettes, l'administration américaine accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'un cartel, le cartel de Los Soles, qui a été inscrit sur la liste des organisations terroristes. Ce serait une structure criminelle fonctionnant au sein de l'armée et de l'administration vénézuélienne. Quel crédit est-ce qu'on peut porter à cette accusation ?
Un crédit faible. Enfin, cette expression de cartel des soleils, elle est ancienne. Hein. On a entendu parler au Venezuela pour la première fois en 1993 pour souligner des pratiques délictuelles des militaires, des policiers, des fonctionnaires vénézuéliens, y compris dans le trafic de drogue. Hein. Enfin, en sachant que le principal producteur de cocaïne, c'est la Colombie voisine et que la frontière est extrêmement poreuse, évidemment qu'il y a du trafic de drogue et évidemment qu'il y a des fonctionnaires qui peuvent participer à cela. Passer d'une construction politique, journalistique, à une réalité d'un cartel tel qu'on peut comparer au cartel du Sinaloa ou au cartel du Golfe, c'est aller vite en mesure.
Et dans le même temps, si le mot de cartel pour désigner une organisation au sein même de l'État vénézuélien est un peu forte, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cet État, dans les administrations, dans les serviteurs de l'État en général, une forme de corruption qui permet également à ce commerce de la drogue d'exister, de se développer au Venezuela?
Oui, tout à fait. Enfin, le Venezuela est une des routes du trafic de la drogue, marginale, mais c'est une route du trafic de la drogue. L'État vénézuélien est un État extrêmement affaibli, extrêmement corrompu, et oui, qu'il y ait des fonctionnaires corrompus, oui, on a vu l'arrestation de neveux de Nicolas Maduro pour trafic de drogue, des hauts responsables, Hugo Carvajal, donc qui ont été.
Il y a quand même une réalité de la corruption d'État.
Bien sûr. Le moment où on bascule dans ce qui me semble un mensonge, c'est quand on parle d'un cartel et qu'on le compare à un cartel de drogue qui a comme activité principale le trafic de drogue. Là, on bascule dans le mensonge. Par contre, que la corruption et la drogue irriguent l'État vénézuélien, oui, évidemment.
Julien Bisson.
Là, on sait que la société vénézuélienne est profondément divisée politiquement. On parlera plus tard de l'opposition. Mais est-ce que cette crise, pour le moment, peut servir les intérêts de Nicolas Maduro? Il fait appel à l'unité nationale face à la menace américaine. Est-ce que ça peut lui servir finalement pour souder le pays autour de lui?
Tant qu'on en reste au stade des menaces, oui. Enfin, ces menaces de Donald Trump, elles permettent de transformer Nicolas Maduro de président impopulaire et autoritaire qu'il est en défenseur de la souveraineté vénézuélienne contre l'impérialisme états-unien, ce qui a beaucoup de sens dans l'histoire du discours d'Hugo Chavez et de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, selon les procès-verbaux des élections présidentielles vénézuéliennes, donc de juillet 2024, mis en ligne par l'opposition, il a eu 30% des voix. C'est un soutien minoritaire, mais c'est un soutien qui est quand même important. C'est une base sociale qui est largement épuisée par une décennie de crise, mais qui peut être réactivée, remobilisée face à cet ennemi commun qu'est les États-Unis et qui est historiquement utilisé par les gouvernements de Chavez puis Maduro.
Marina Corina Machado, c'est le nom de la prix Nobel de la paix 2024. Elle a vu son prix remis aujourd'hui à Oslo. On va y venir, on va en parler. On va d'abord l'écouter pour une prix Nobel de la paix. Elle a un discours relativement complaisant à l'égard de Donald Trump, notamment.
J'ai décidé de dédier ce prix à Donald Trump car il le mérite. Non seulement il a participé à résoudre beaucoup de conflits en quelques mois, mais en plus, ses actions ont été déterminantes pour que le Venezuela soit au seuil de la liberté après 26 ans de tyrannie qui ont détruit la vie de millions de Vénézuéliens, qui ont déstabilisé la région et qui ont miné les institutions états-uniennes. Tout cela parce que le Venezuela est le refuge des ennemis des États-Unis. Donald Trump a été très clair et courageux pour démanteler ces organisations criminelles. Et au nom du peuple vénézuélien, je renouvelle notre gratitude pour cette cause qui protège les Amériques.
Alors, est-ce que le prix Nobel de la paix 2025, Marina Corina Machado, on reviendra sur son parcours, soutient l'intervention militaire américaine?
Oui, complètement, et c'est toute la...
Un paradoxe déjà.
Complètement, c'est une pacifiste peu pacifiste, dirions-nous. Elle a remercié Donald Trump pour les interventions dont on parlait dans la mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique. Et c'est quelque chose qui est assez cohérent dans le parcours de Maria Corina Machado, où elle a appelé à l'intervention militaire des États-Unis de longue date, en pensant que c'est la menace crédible contre le régime de Maduro qui peut permettre sa chute. C'est une stratégie d'appel à de puissance étrangère pour libérer le Venezuela, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire avec les forces à l'intérieur du pays pour l'instant.
Julien Bisson.
Avec l'attribution de ce prix Nobel de la paix, est-ce que finalement, à travers elle, c'est une reconnaissance de l'opposition vénézuélienne? Et quelle place tient-elle au sein de cette opposition?
Maria Corina Machado, dans l'opposition vénézuélienne, c'est la tendance la plus radicale. C'est-à-dire que l'opposition vénézuélienne, elle est diverse. Il y a des courants de gauche, des courants du Parti communiste vénézuélien, des courants trotskistes. Il y a des courants plus conciliants, un courant d'Enrique Capriles, et il y a des courants plus radicaux. Avec l'échec de toutes les tentatives de négociation.
Vous voulez dire plus à droite, vous, parce que vous on l'a pas vu à l'antenne, mais vous montrez la direction droite avec votre corps.
Plus à droite et adepte de stratégies plus radicales également contre le gouvernement de Chavez et Maduro, plus radical également d'un point de vue politique, mais en termes de méthode également. Ce qui est cette spécificité de Maria Corina Machado, c'est ce positionnement qui la rendait marginale pendant longtemps, mais à force d'avoir l'échec de toutes les phases de négociation, c'est elle qui est devenue la personnalité la plus en vue dans l'opposition vénézuélienne et la plus reconnue par les Vénézuéliens, parce que toutes les options étaient privées d'espace politique par Nicolas Maduro lui-même.
Pourquoi lui a-t-on remis le prix Nobel de la paix?
Il faudrait demander au comité Nobel. Avant cela, elle a eu quand même le prix Vaclav Havel, le prix Sakharov, qui donnait une certaine légitimité au comité Nobel pour la récompenser.
Bon, si je reformule, en quoi a-t-elle œuvré pour la paix, alors?
Alors, pour la paix, je ne pense pas. Mais on voit que le prix Nobel, le comité Nobel a choisi ces dernières années des personnes qui ne sont pas illustrées, qui ne sont pas tant que ça illustrées pour la paix, mais davantage dans le retour de la démocratie dans leur pays. Vous parliez donc du cas en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, en Chine, en Iran, enfin où on a une série de cas ces dernières années qui illustrent une tendance du comité Nobel de ne pas vraiment récompenser des personnes qui œuvrent pour la paix, la réduction des armements et la résolution des conflits, mais davantage pour mettre fin à des gouvernements autoritaires, souvent dans des puissances qui sont contre l'Occident, davantage que des militants pacifistes. En cela, Marie-Corina Machado est une vraie militante des droits de l'homme contre un régime autoritaire au Venezuela.
Et je précise que demain, dans Question du soir, en seconde partie, dès 19h, nous recevrons le prix Nobel de la paix 2022. Une Ukrainienne, Julien Bisson.
La justice vénézuélienne ne pense pas non plus qu'elle milite pour la paix puisqu'elle l'accuse d'actes de conspiration, d'incitation à la haine et de terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces accusations ? Sur quel fondement se base-t-elle ?
Alors évidemment, on parle de la justice d'un régime autoritaire qui instrumentalise ces accusations, qui criminalise des positions politiques. Évidemment, Maria Corina Machado a un combat politique de déstabilisation du gouvernement de Nicolas Maduro. L'utiliser avec ces termes, enfin, on parlait des propos de Peter Hegseth et de Donald Trump qui utilisent le mot terroriste un peu à tort et à travers pour tous leurs opposants, pour essayer de les disqualifier et faciliter des recours à la guerre. Bon, on voit un petit peu une tendance similaire de la part de Nicolas Maduro et de ses partisans d'utiliser le mot de terrorisme pour disqualifier quelqu'un qui effectivement mène des actions pour essayer de le renverser, mais appeler à du terrorisme, c'est pour l'instant, c'est exagéré. Après, enfin, si on considère que effectivement les bombardements dans la mer des Caraïbes sont des actions de terreur, on peut le relier. Mais disons que beaucoup de personnes ont été accusées de terrorisme au Venezuela, y compris des personnes qui n'avaient pas mené d'action de terreur, qui avaient juste protesté pacifiquement contre les mesures autoritaires que peut commettre le gouvernement Maduro.
On l'a dit, hein, Marina Corina Machado a reçu aujourd'hui son prix Nobel dans le cadre d'une cérémonie qui s'est déployée à Oslo. Longtemps, il y a eu un mystère durant plusieurs semaines. Ira pas. Est-ce qu'elle se rendra effectivement à cette cérémonie? Alors pourquoi tant de mystères et pourquoi aujourd'hui est-elle considérée par le Venezuela comme une fugitive? Comment est-ce que vous analysez cette séquence un peu étrange vue de France?
Le gouvernement vénézuélien essaye d'empêcher à tout prix ce coup de communication contre lui, et où en même temps le fait que les opposants un à un quittent le Venezuela, c'est une bonne nouvelle. Hein, ça permet d'éviter d'avoir des personnes qui fomentent la division à l'intérieur du pays. D'après le Wall Street Journal, elle se serait enfuie par bateau vers l'île de Curaçao et elle serait en avion, donc elle devrait arriver dans les prochaines heures à Oslo recevoir son prix. Mais évidemment, sa sortie était un enjeu politique pour le gouvernement vénézuélien. Et son retour, le gouvernement vénézuélien, on imagine qu'il va l'éviter à tout prix, parce que ce serait quelqu'un qui puisse fomenter une opposition à l'intérieur du pays. Et Maria Corina Machado est beaucoup plus utile pour Nicolas Maduro à l'extérieur du Venezuela qu'à l'intérieur. C'était une des rares opposantes qui était toujours à l'intérieur du pays et qui pouvait mobiliser la population, haranguer la population contre le gouvernement de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro préfère que tout ça se fasse à l'extérieur.
Julien Bisson.
Vous disiez tout à l'heure que Maria Corina Machado était favorable aux opérations menées par l'administration de Trump. Est-ce que c'est le cas de toute l'opposition vénézuélienne ? Est-ce que toute l'opposition pourrait voir d'un regard plutôt positif une intervention, y compris une intervention militaire dans le pays ?
Non, il y a eu dans le sens des déclarations d'Enrique Capriles, du journal El Nacional, qui est un des principaux journaux d'opposition, qui craignent une intervention militaire, accusent le gouvernement de Nicolas Maduro d'un certain nombre de méfaits, de fait que le salaire minimum est autour de 1 $ par mois, de la responsabilité de cette crise, mais considérer qu'une intervention militaire avec tous les risques qu'elle pourrait engendrer est une solution. Une large partie de la population vénézuélienne et une partie de l'opposition n'est pas d'accord avec ce point de vue. C'est un point de vue spécifique de Maria Corina Machado.
On a parlé d'à peu près tout le monde dans cette affaire, sauf peut-être du peuple vénézuélien lui-même. À quel point soutient-il ou non encore Nicolas Maduro ?
Le soutien à Nicolas Maduro est minoritaire. Les élections présidentielles de juillet 2024 attestaient, selon les procès-verbaux détaillés mis en ligne par l'opposition, un soutien de l'ordre de 30%. C'est un soutien substantiel, mais très nettement minoritaire. Une défaite qui n'a été conjurée que par ses liens avec le système judiciaire électoral, militaire. C'est une base sociale qui existe. C'est une population dont la vie majoritaire, c'est... un ras-le-bol de cette crise, de difficultés économiques, d'une décennie à avoir des difficultés de s'approvisionner en électricité, en eau, à avoir des salaires qui ne permettent pas de vivre, à de vivre de maigres aumônes du gouvernement. Le peuple vénézuélien a envie que ça s'arrête. Est-ce qu'une intervention militaire serait pas pire que le mal actuel? C'est la question, et où je pense qu'effectivement le risque est extrêmement fort et ne rendrait pas service à long terme au peuple vénézuélien.
Merci beaucoup, Thomas Posada. De votre clarté, notamment. Vous êtes maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen et l'auteur de cet ouvrage qui est apparu aux presses universitaires du Midi intitulé « Venezuela, de la révolution à l'effondrement ». Julien Bisson, je me tourne vers vous. Que trouve-t-on dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine ?
Eh bien, pour poursuivre les débats engagés dans la première partie de l'émission, on se demande « l'IA peut-elle nous soigner ? » Réponse avec des spécialistes d'IA et des médecins, et notamment un grand poster illustré à déplier et afficher pour comprendre organe par organe la façon dont l'IA va révolutionner notre santé.
Sujet passionnant et un immense merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Rodi Eken, à la réalisation François Richer.